Joseph Arthur de Gobineau, Nouvelles Asiatiques, La danse de Chamaha, Caucase. Don Juan Moreno y Rodil était lieutenant dans les chasseurs de Ségovie quand son régiment se trouva entraîné à prendre part à une insurrection militaire qui échoua. Deux majors, trois capitaines et une couple de sergents furent pris et fusillés. Quant à lui, il s'échappa, et après avoir erré pendant quelques mois en France, dans un état fort misérable, il réussit, au moyen de quelques connaissances qu'il s'était faites, à se procurer un brevet d'officier au service de Russie, et reçut l'ordre d'aller rejoindre son corps au Caucase, où, dans ce temps-là, bonne et rude guerre était le pain quotidien. Le lieutenant Moreno s'embarqua à Marseille. Il était naturellement d'une humeur assez austère. Son exil, sa misère et plus que tout cela, le chagrin profond de quitter pour bien des années au moins une femme qu'il adorait, redoublaient ses dispositions naturelles, de sorte que personne moins que lui n'était tenté de rechercher les joies de l'existence. À force de naviguer, le bâtiment qui le portait vint prendre terre au fond de la mer Noire, à la petite ville de Poti. C'était alors le port principal du Caucase du côté de l'Europe. Sur une plage, sablonneuse en partie boueuse, couverte d'herbes de marécage, une forêt épaisse, à moitié plongée dans l'eau, s'éloignait à l'infini dans l'intérieur des terres, en suivant le cours d'un fleuve large, joli tortueux, plein de roches, de fanges et de troncs d'arbres échoués. C'était le Faz, la rivière d'or de l'Antiquité, aujourd'hui le Rioni. Au milieu d'une végétation vigoureuse, ici règne la fièvre et tout ce qui appartient à la nature mouvante en souffre autant que la nature végétale y prospère. La fièvre a usurpé là en souveraine le sceptre d'Actée et les enfants du soleil. Les maisons, construites au milieu des eaux stagnantes et sur les souches des grands arbres élagués, s'élèvent en l'air sur des pilotis afin d'éviter les inondations. D'énormes trottoirs de planches les unissent les unes aux autres. Les toits lourds, couverts de bardeaux, projettent en avant leur carapace épaisse et garantissent, autant que faire se peut, des pluies fréquentes, les croisées étroites de ces habitations semblables à des coques d'escargot. Moreno fut saisi par l'aspect de ces nouveautés. À bord de son navire, on connut sa qualité d'officier russe, et il était annoncé comme tel dès son débarquement. C'est pourquoi, dans une rue assez large où il errait dépaysé, il vit venir à lui un grand jeune homme extrêmement blond, le nez sensiblement aplati, les yeux bridés en l'air et la lèvre supérieure ornée d'une petite moustache rare, hérissée comme celle d'un chat. Ce jeune homme n'était pas beau, mais leste, découplé et avait l'air ouvert et cordial. Il portait la tunique d'officier du génie et l'aiguillette d'argent, particulière aux membres de ce corps qui se sont distingués dans leurs études. Sans s'arrêter à l'accueil réservé de Don Juan, ce garçon lui tint brusquement, en français, le petit discours que voici. « Monsieur, j'apprends à la minute qu'un officier au dragon, Dimeretti, se trouve à Poti, allant rejoindre son corps à Bakou. Cet officier, c'est vous-même. Comme camarade, je viens me mettre à votre disposition. » « Je fais la même route que vous. S'il vous plaît, nous voyagerons ensemble et, pour commencer, je sollicite l'honneur de vous offrir un verre de champagne au grand hôtel de Colchide que vous apercevez là-bas. D'ailleurs, si je ne me trompe, l'heure du dîner n'est pas loin. J'ai invité quelques amis et vous ne me refuserez pas le plaisir de vous les présenter. » Tout cela fut dit de bonne grâce, avec cet air sémillant dont les Russes ont hérité depuis que les Français, qui passent pour l'avoir inventé, l'ont perdu. L'exilé espagnol accepta la main du nouveau venu et lui répondit « Monsieur, je m'appelle Juan Moreno. Moi, monsieur, je m'appelle Hassanov. C'est-à-dire, je m'appelle en réalité Mourad, fils de Hassan Khan. Je suis russe, c'est-à-dire tatar de la province de Chirkhorane, et musulman, pour vous servir, c'est-à-dire à la façon dont aurait pu l'être monsieur de Voltaire, grand homme, et dont je lis avec plaisir les ouvrages quand je n'ai pas sous la main ceux de monsieur de Paul de Kock. Là-dessus, Hassanov, passant son bras sous celui de Moreno, l'entraîna vers la place en face du fleuve, où s'apercevait d'assez loin une grande maison basse, longue baraque au fronton de laquelle on lisait en lettres blanches sur une planche bleue de ciel, grand hôtel de Colchide, tenu par Jules Marron, aîné, le tout en français. À leur entrée dans la salle de l'hôtel où le couvert était mis, les deux officiers trouvèrent leurs convives déjà réunis, buvant un petit coup de l'eau-de-vie de grain et mangeant du caviar et du poisson sec dans le but d'irriter leur appétit. De ces convives, quelques-uns méritent tout au plus d'être mentionnés. Deux commis français dont l'un venait au Caucase pour acheter de la graine de verre à soie et l'autre pour se procurer des loupes d'arbres. Un Hongrois, voyageur taciturne, un passementier saxon allant en Perse chercher fortune. Ce ne sont là que des comparses étrangers à notre histoire. Nous nous attachons davantage à ceux qui suivent. D'abord se présentait la maîtresse de la maison, Madame Marron, aînée, laquelle devait présider le festin. C'était une bonne grosse personne. Elle avait certainement franchi la quarantaine, mais nullement laissé de l'autre côté de cette frontière la prétention de séduire. Du moins, ses regards fort aiguisés l'affirmaient et tenaient le pied de guerre. Madame Marron, aînée, haute en couleur, dépassant peut-être dans l'envergure entière de sa personne une mesure modeste de moyen de plaire, les développant au contraire avec une générosité prodigue, portait des boucles noires répandues en cascade le long de ses joues et ralliant sa ceinture d'un air fort agaçant. Cette dame avait une conversation vive, relevée d'expressions pittoresques et animée par l'accent marseillais. La maison était tenue au nom de Marron, aîné, comme on l'a appris déjà. Mais ce que les confidents les plus intimes de Madame Marron, aînée, savaient sur le compte de cet époux, se bornait à dire qu'ils ne l'avaient jamais connue et n'en avaient entendu parler que par sa femme, qui de temps en temps, de loin en loin, trahissait l'espoir de le voir enfin arriver. Fait plus certain, la belle maîtresse du grand hôtel de Colchide à Poti s'était fait longtemps remarquer à Tiflis sous le nom de Léocadie. Elle y avait été modiste, et l'armée du Caucase entière, infanterie, cavalerie, artillerie, génie et pontonnier, s'il y en a, s'était inclinée sans résistance sous le pouvoir de ses perfections. Je le sais bien, dit Hassanov à Moreno en lui racontant en gros ses circonstances, je le sais bien. Léocadie n'est ni jeune ni très jolie. Mais que voulez-vous faire à Poti? Le diable y est plus malin qu'ailleurs. Et songez donc une Française à Poti. Comment voulez-vous qu'on résiste? Il présenta ensuite son camarade à un homme fort grand de taille, vigoureux, blond, avec des yeux gris pâles, de grosses lèvres, un air de jovialité convaincu. C'était un Russe. Ce colosse souriait, portait un costume de voyage peu élégant mais commode, et qui trahissait d'abord l'intention arrêtée d'éviter toute gêne. Grégoire Ivanitch Vialguet était un propriétaire riche, une sorte de gentilhomme campagnard et en même temps un sectaire. Il appartenait à une de ces églises réprouvées, mais toujours présentes dans le christianisme, à une de ces églises que les grandes communions extirpent de temps en temps par le fer et par la flamme, mais qui, pareils aux traînées du chien dent, conservent quelques boutures inaperçues et reparaissent. C'était, en un mot, un Duchosboretz ou ennemi de l'esprit. Le gouvernement et le clergé russe se sont armés contre les religions dont Vialguet faisait partie. Quand ils les découvrent dans les provinces intérieures de l'Empire, ils ne les mettent pas à mort, ainsi qu'on le faisait au Moyen-Âge, mais ils les saisissent et les déportent au Caucase. Les ennemis de l'esprit sont d'opinion que la partie saine, bonne, innocente, inoffensive de l'homme, c'est la chair. La chair n'a d'elle-même aucun mauvais instinct, aucune tendance perverse. Se nourrir, se reproduire, se reposer, ce sont là ses fonctions. Dieu les lui a données et lui rappelle sans cesse pour les appétits. Tant qu'elle n'est pas corrompue, elle recherche purement et simplement les occasions de se satisfaire. Ce qui est marché dans les voies de la justice céleste. Et plus elle se satisfait, plus elle abonde dans le sens de la sainteté. Ce qui la corrompt, c'est l'esprit. L'esprit est d'origine diabolique. Il est parfaitement inutile au développement et au maintien de l'humanité. Lui seul invente des passions, de prétendus besoins, de prétendus devoirs, qui, contrariant à tort et à travers la vocation de la chair, engendrent des maux sans fin. L'esprit a introduit dans le monde le génie de la contradiction, de la controverse, de l'ambition et de la haine. C'est de l'esprit que vient le meurtre, car la chair ne vit que pour se conserver et nullement pour détruire. L'esprit est le père de la sottise, de l'hypocrisie, des exagérations dans tous les sens, et partant des abus et des excès que l'on a coutume de reprocher à la chair, excellente personne, facile à entraîner à cause de son innocence même. Et c'est pourquoi les hommes vraiment religieux et vraiment éclairés doivent défendre cette pauvre enfant en bannissant vivement les séductions de l'esprit. Dès lors, plus de religion positive pour éviter de devenir intolérant et persécuteur, plus de mariage pour n'avoir plus d'adultère, plus de contraintes sans aucun goût pour supprimer radicalement les révoltes de la chair, et enfin, l'abandon systématique de toute culture intellectuelle, occupation odieuse qui, n'aboutissant qu'au triomphe de la méchanceté, n'a opéré jusqu'ici qu'en faveur de la puissance du diable. Les ennemis de l'esprit, bannissant tout résultat d'un effort de l'intelligence, n'estiment pas même à l'industrie et opinent à la réduire aux fabrications les plus indispensables et aux procédés les plus simples. En revanche, ils estiment grandement la charrue et se montrent agriculteurs expérimentés et éleveurs de bétail admirables. Les fermes établies par eux dans le Caucase sont belles, bien tenues, prospères, et s'ils n'étaient trop classiques et trop fleuris de comparer les mœurs qui règnent à celles qui fleurirent jadis dans l'intérieur des temples de la déesse syrienne, on peut cependant affirmer avec assez d'exactitude que le Duchosboretz dépasse de bien loin dans ses habitudes les façons d'agir et de se régler des mormons d'Amérique. « Vous ne rencontrerez jamais un plus aimable homme que celui-là, » dit Hassanov à son ami, en lui montrant l'adversaire du sens commun. « Un plus brave homme, plus gai, plus obligeant n'existe pas. J'ai été en cantonnement près de chez lui dans le voisinage des montagnes. » Et combien je m'y suis amusé, et à quel point il m'a été utile, c'est ce qu'il est impossible de vous raconter, vous ne me croiriez pas. Hé, Grégoire Ivanitch, vieux drôle, infernal coquin, viens que je t'embrasse. Pars-tu demain avec nous? Oui, monsieur le lieutenant, je l'espère. Je ne crois pas avoir de raison pour ne pas partir demain avec vous. Mais aller jusqu'à Bakou, non, n'y comptez pas. Je m'arrêterai à Chabachar. Vilain trou, n'est-ce pas ? Répliqua Sanov tandis qu'ainsi que tous les convives, il se mettait à table et dépliait sa serviette. « Vous ne savez ce dont vous parlez ?» répliqua le sectaire en enfournant dans sa bouche une énorme cuillerée de soupe. « Car Madame Marron, aînée, servait les convives à leur rang et une petite servante à base venait de remettre une assiette pleine à Grégoire Ivanitch. » Léocadie, qui connaissait le Caucase dans tous ses détails, crut devoir intervenir dans la conversation. « Taisez-vous !» s'écria-t-elle en jetant sur Grégoire Ivanitch un regard où se peignait une indignation profonde. « Je sais qui vous êtes et je sais aussi ce que vous voulez insinuer. Mais je ne souffrirai jamais qu'à ma table et dans la maison respectable de M. Marron et Henley, on tienne des propos qui feraient rougir des sapeurs. » Léocadie rougit fortement elle-même pour prouver que sa modestie n'était nullement inférieure à celle des membres du corps militaire dont elle venait de signaler la vertu. « Allons, jalouse, allons !» répliqua Sanoff en agitant la main d'un air conciliant. « Il paraît que votre expérience découvre des pièges là où ma candeur n'en soupçonne pas. Soyez donc tranquille, ma fidélité à mes serments est inébranlable. Explique-moi, Grégoire Ivanitch, ce que tu prétends me faire entendre, car je suis de naturel curieux. Ben, il est bien connu, reprit alors le Duchoboretz, en se versant un énorme verre de vin de Kachefti, que la ville de Shabaha est célèbre pour le choix délicat de ses plaisirs. Ce fut autrefois la résidence d'un prince tatar indépendant. On y entretenait une école de danseuses admirée de tous les pays et célèbre jusque dans les provinces persanes. Naturellement, les peuples se rendaient en foule dans ce délicieux séjour pour y jouir de la vue et de l'entretien de tant de belles personnes. Mais la Providence ne voulut pas laisser à jamais les Mahométans uniques possesseurs de ces trésors. Et nos troupes impériales attaquèrent Shabaha, comme elles avaient fait des autres résidences des souverains du pays. La résistance des infidèles fut vive, et au moment de succomber, la fureur les prit. Afin de ne pas voir les Russes heureux à leur tour, ils résolurent d'exécuter un massacre général de toutes les danseuses. Ah, voilà une de ces infamies qui finirait par me faire embrasser la religion, et elle devrait répéter souvent, interrompit Asanov. Mais le massacre ne fut pas complet. Ah, tant mieux! Les régiments russes enlevèrent la place d'assaut au moment où la tuerie commençait. C'était un spectacle affreux. La brèche béante donnait passage à des flots de soldats. Ceux-ci s'empressaient de faire main basse sur les défenseurs de la ville, enragés à ne pas reculer d'un pouce. À leur grand étonnement, nos hommes trouvaient ça et là des cadavres de jeunes filles, richement parées de gazes rouges et bleues, pailletées d'or et d'argent, couvertes de joyaux et jetées sur le pavé dans leur sang. En gagnant plus avant l'intérieur des rues, ils aperçurent des groupes nombreux de ces victimes encore vivantes. Les musulmans les poussaient à coups de sabre. Alors ils se jetèrent plus hardiment au milieu de la bagarre, et c'est ainsi que, lorsque toute résistance eut cessé, on se trouva voir sauver peut-être le quart des adorables personnes qui avaient porté jusqu'au ciel la gloire de Shabaha. « Si ton histoire n'avait pas fini à peu près heureusement, » s'écria Asanov, « oh, j'aurais pas pu continuer mon dîner. Mais de la façon dont tu t'y es pris, je crois que j'irai jusqu'au dessert. Madame, seriez-vous assez bonne pour me faire donner du champagne ?» Le mouvement qui suivit cette demande interrompit un moment l'entretien. Mais quand on eut porté la santé du nouvel officier arrivé au Caucase, ce que Madame Marron, aînée, proposa d'une manière tout aimable et d'une façon qui pût troubler le joyeux ingénieur, s'il eût possédé un naturel capable de s'arrêter à de pareilles vétilles, un des convives renoua le fil de l'entretien. Je suis allé, dit-il, il y a quelques mois, jusqu'à Chamara. Et l'on m'y a raconté que la danseuse la plus estimée était une certaine Omjehane. Elle faisait tourner toutes les têtes. Omjehane, répondit brusquement l'ennemi de l'esprit. C'est une pitoyable fillette, pleine de caprices et de sottises. Elle danse mal. Et si on parle d'elle, c'est uniquement à cause de son humeur insociable et de ses bizarreries méchantes. D'ailleurs, elle n'est aucunement jolie. Oh, il s'en faut de tout. Il paraît, notre ami, s'écria Sanoff, que nous n'avons pas eu à nous louer de cette jeune personne. Dans le sens où vous paraissez l'entendre, reprit le premier interlocuteur, Omjehan n'est pas en effet fort digne d'attention. Je me suis rencontré avec un officier d'infanterie en retraite qui la connaît depuis son enfance. Cette belle est originaire d'une tribu Lezghi, aujourd'hui détruite, et vous savez que ses compatriotes n'ont pas une grande réputation de douceur. Recueillie par des soldats quand elle avait 3 ou 4 ans, au milieu des ruines d'un village montagnard qui brûlait, et sur le corps de sa mère, tombée morte par-dessus un officier poignardé par la dame, la femme d'un général la réclama et prétendit la faire élever à l'européenne. On la soigna très fort, on l'habilla bien et absolument comme les deux filles de la maison. On lui donna l'institutrice chargée d'instruire ses demoiselles et elle apprit vite et mieux qu'elle le russe, l'allemand et le français. Mais un de ses jeux favoris était de plonger les jeunes chats dans l'eau bouillante. Elle avait 10 ans quand elle faillit étrangler au détour d'un escalier sa gouvernante, la digne mademoiselle Martinet, qu'il avait appelée petite sotte 8 jours auparavant, et lui mit un magnifique tour de cheveux châtains hors d'état de servir jamais. À 6 mois de là, elle fit mieux. Elle se rappela, ou plutôt elle n'avait jamais oublié, qu'un an auparavant, la plus jeune fille de sa bienfaitrice l'avait poussée en jouant. Elle était tombée, il en était résulté une bosse au front. Elle crut devoir aviser à effacer cet outrage, et d'un coup de canif bien appliqué, atteignit et fendit la joue de sa petite compagne, heureusement, car elle avait dessein de l'éborgner. La générale eut assez de ce dernier trait, et, renvoyant la jeune rebelle de son cœur et de sa maison, elle la confia à une femme musulmane avec une petite somme. Arrivée à l'âge de 14 ans, Omjehan s'enfuit de Derbend, où résidait sa nouvelle mère adoptive. On n'a pas su ce qu'elle était devenue pendant 2 ans. Et aujourd'hui, la voilà une des danseuses de la troupe, instruite, conduite et gouvernée par Madame Forgugelsnet, autrement dit, les splendeurs de la beauté. D'ailleurs, Grégoire Ivanitch a raison. Beaucoup de gens ont cherché à séduire Omjehan, mais personne n'y a réussi. Hassanov trouva ce récit tellement merveilleux qu'il voulut faire partager son enthousiasme à Moreno. Mais ce fut peine perdue. L'Espagnol ne prit aucun intérêt à ce qu'il appela les équipés d'une fille de rien. Le trouvant donc silencieux, l'ingénieur le jugea maussade et cessa de s'occuper de lui, à mesure que sa propre imagination allumait dans le vin de champagne un surcroît d'ardeur. Le dîner terminé, les Français, le Hongrois, gagnèrent leur chambre. Moreno de même. Et Hassanov se mit à jouer à la préférence avec 2 des autres hôtes et Madame Marron, aînée, tandis que l'ennemi de l'esprit les considérait d'un œil de plus en plus troublé en buvant de l'eau de vie. Ces plaisirs variés durèrent jusqu'au moment où les joueurs furent comme mis en sursaut par un bruit sourd qui retentit à côté d'eux. C'était Grégoire Ivanitch qui s'écroulait sur sa base. Hassanov avait perdu son argent. 2 heures du matin venaient de sonner, chacun alla se coucher, et le grand hôtel de Colchide, tenu par M. Marron aîné, entra dans le repos. Il était à peine 5 heures quand un domestique de l'hôtel vint frapper à la porte de la chambre à coucher de Moreno pour l'avertir que le moment du départ était proche. Quelques instants après, Assanoff parut dans le corridor. Sa capote d'uniforme était jetée sur ses épaules plus que négligemment. Sa chemise de soie rouge, fort chiffonnée, tenait mal à son cou, et sa casquette blanche était comme plaquée sur son épaisse chevelure bouclée où aucun soin de toilette n'avait mis de l'ordre. Quant à la figure, elle était ravagée, pâle, tirée, les yeux étaient rougis, et l'ingénieur aborda de Juan avec un bâillement effroyable, en se tirant les bras de toute leur longueur. « Eh bien, cher ami, s'écria-t-il, il faut donc s'en aller. Est-ce que vous aimez à vous lever si matin, quand vous n'êtes pas de service, et même quand vous en êtes ?»« Voilà, Georges, noble brute, apporte-nous une bouteille de champagne pour nous mettre en train, ou le diable si je ne le casse pas les os. » Non, pas de champagne, dit Moreno. Allons-nous-en. Vous oubliez qu'on nous a remontré hier combien il était important de nous mettre en mouvement de bonne heure avec la longue route que nous avons à faire. Mais certainement, je m'en souviens. Mais je suis avant tout un gentilhomme, et un homme comme moi est tenu de couronner sa journée autrement qu'en pleutre. Commençons là comme des gens sensés et allons-nous-en. L'ingénieur se laissa persuader, et chantonnant l'air des fraises, alors fort à la mode dans le Caucase, il s'achemina avec son compagnon vers le bord du fleuve qu'ils allaient remonter. Leurs moyens de transport étaient des plus simples et des moins en harmonie avec les prétentions de l'officier, Zatar, l'homme raffiné. On avait simplement mis à leur disposition une longue nacelle étroite et 4 bateliers, lesquels, dans leur propre intérêt, devaient faire beaucoup moins usage de leur rame que d'une longue ficelle à laquelle 2 d'entre eux allaient s'atteler, et, marchant vers la rive en façon de chevaux de halage, tirer le bateau à la cordelle. L'état-major de l'Argo, quand il visita cette contrée sous le commandement du capitaine Jason, aurait trouvé cet attelage primitif. Ce n'est pas qu'il n'existât un service de steamer dont les journaux d'Europe et d'Amérique avaient fait quelque bruit, mais, tantôt pour une raison, tantôt pour une autre, ce service ne fonctionnait pas. Et, bref, Moreno et Assanoff voulant s'en aller à Kontaïs et de là gagner Tiflis et Bakou, n'avaient d'autre parti à choisir que de prendre place dans leur pirogue. Ce qu'ils firent. Il était beau de les voir dans cette embarcation étroite qu'une banne blanche mettait à l'abri des rayons du soleil, assises ou couchées au milieu de leur caisse, fumant, causant, dormant ou se taisant et s'avançant avec la plus majestueuse lenteur, tandis que 2 de leurs mariniers poussaient avec des gaffes et que les 2 autres, la cordelle sur l'épaule, tiraient de leur mieux en marchant courbés sur la berge et à pas compter. On ne peut pas dire que la forêt commence seulement au sortir de Poti. Poti est comme absorbé dans la forêt, mais quand on laisse derrière soi l'enceinte carrée en pierre flanquée de tours, où les musulmans parquaient jadis les esclaves, dont ce lieu était l'entrepôt principal au Caucase, on y voit plus d'habitations et on peut se croire dans des lieux que les humains n'ont jamais visités. Rien de si abandonné en apparence, rien de si inhospitalier, de si farouche, de si rébarbatif. Un fleuve hâté, roulant des eaux limoneuses ou chargé de sable sur un lit rempli de roches, contre lesquelles ses eaux rebroussent à chaque instant, des rives lacérées, déclivée par des crues subites et impitoyables de la saison d'hiver, présentant ici une place dépouillée, là un escarpement subit, des troncs d'arbres charriés dressant leurs bras mutilés en l'air comme pour crier miséricorde, puis roulés par trois ou par quatre les uns sur les autres et enterrés à demi, mais toujours frissonnant, toujours remuant en vain, car le fleuve irrité passe sur eux en grondant plus fort ou au travers de leurs rameaux. Et aux deux côtés de cette rage, le silence solennel d'une forêt qui paraît sans limite. On voit la scène. Le fleuve mugit, rugit, saute, tourbillonne et court. Le bateau où sont les officiers le remonte lentement au pas cadencé des deux hommes qui le halent. Les feuilles de la forêt frissonnent sous le vent du matin, les unes larges, les unes nues, celles-ci dans le sombre, celles-là dans la lumière, par des éclaircies lointaines, des rayons de soleil chatoient dans la verdure et y font passer des bandes de clarté semblables à la présence des lutins. Sur le ciel bleu et clair, se détachent les cimes délicates de quelques frênes, de quelques hêtres, de quelques chênes plus grands que le peuple de leurs compagnons. Moreno considérait ce spectacle, en définitive merveilleux, avec un intérêt étrange, quand Asanoff, un peu ranimé, est revenu à lui, proposa de sauter sur la rive et, en allégeant d'autant le bateau, de se donner le plaisir d'une promenade. Cette idée fut accueillie avec empressement par l'officier espagnol et les deux compagnons se mirent à marcher dans les hautes herbes en devançant leur embarcation et de temps en temps, sûrs de la rattraper, poussant une pointe dans quelque clairière. Ce fut ainsi que Moreno eut des occasions de s'apercevoir que la contrée forestière traversée par le Rio Ni n'est nullement aussi déserte qu'il en avait d'abord eu l'impression. De temps en temps, lui et son camarade voyaient sortir brusquement des fourrés quelques bandes effarées de petits porcs, très semblables à des marcassins noirs, avec des soies longues et dures, aux jambes fines, brusques, lestes, agiles et jolies, au point de se faire renier par tous leurs congénères d'Europe. Ce petit monde, à l'aspect des étrangers, s'enfuyait à toutes jambes à travers les taillis et faisait découvrir une case carrée en bois caché sous les arbres, envoyant vers le ciel la fumée bleuâtre de son foyer et habité toujours, il faut le dire, par des êtres, hommes, femmes, enfants, sur lesquels le don de la beauté a été aussi libéralement répandu que les haillons de la misère. Depuis qu'il existe des sociétés humaines, on sait que les populations de la vallée du Faz sont belles. On leur a prouvé ce qu'on en pensait en les enlevant, en les vendant, en les adorant, en les massacrant, parce que les hommes, pris en masse ou en particulier, n'ont pas reçu du ciel d'autre façon de démontrer leur amour. Après tout, il est certain que cette beauté ne peut pas être considérée comme fatale, puisqu'il est sorti des forêts du Faz et des misères de ces cahutes tant de reines fameuses et puissantes, tant en favorites souveraines et des lignées de rois finissent s'asseoir les uns les autres, femmes et hommes, sur le trône ou mettre le trône sous leurs pieds. La destinée ne leur a rien demandé, ni génie, ni talent, ni naissance glorieuse. Elle s'est contentée de voir leur beauté. Quelquefois, l'histoire exagère, et pour une jolie fille rencontrée par hasard, et laissant à un passant une heureuse impression, qu'il répartit sur toute une province, combien d'hôtesses rousses imposant par la grâce du même juge leur défaut à toutes les hôtesses du royaume. Mais ici, rien de semblable n'est arrivé. La nature s'est vraiment surpassée et l'imagination n'a pu monter plus haut qu'elle. Tout ce qu'on a dit, écrit et chanté sur les perfections physiques des gens du phase est vrai à la lettre. Et l'examen le plus maussade, s'il veut parler vrai, ne trouve rien à en rabattre. Ce qui est surtout remarquable et semble sortir de toutes les règles, c'est que ces paysans, ces paysannes, ces malheureux et ces malheureuses sont doués d'une distinction et d'une grâce extrême. Leurs mains sont belles, leurs pieds sont adorables. La forme les attache, tout en est parfait. Et l'on peut s'imaginer à quel point est pondérée et juste la démarche de créatures qui n'ont pas un défaut dans leur construction. Bassanoff était trop occupé, accoutumé à la vue des filles iméritiennes et gourislemées pour en être aussi frappé que Moreno. Il les trouvait jolies, mais comme la civilisation le passionnait, il jugeait Madame Marron aînée, flouée de perfection d'un ordre très supérieur, bien qu'un peu défraîchie par le frottement des années. On s'est peut-être aperçu que l'ennemi de l'esprit n'avait pas pris passage avec les deux officiers. Pourtant, suivant ses déclarations de la veille, on aurait dû lui en supposer l'intention. Bassanoff, peu maître de ses sens au moment du départ, ne s'était nullement enquis de l'absence de son ami. Il y songea seulement quand le bateau était déjà loin. Moreno n'avait pas pris part à la conversation de la veille, de sorte que Grégoire Ivanitch s'était trouvé en parfaite liberté d'agir à sa guise. La nuit lui avait porté conseil. Il avait réfléchi, en y songeant un peu à travers l'ivresse, et il n'était jamais si prudent et si avisé que lorsqu'il était gris, à la sottise d'arriver à Chabachla avec un étourdi fort occupé de ses plaisirs et pas du tout à lui être agréable. Grégoire Ivanitch était loin de s'aveugler au point de supposer que, pour tant d'occasions de plaisir, que ses principes religieux et son bon caractère lui avaient fait mettre sur le chemin de l'ingénieur, celui-ci se piquerait de générosité à son égard et aurait scrupule, une fois dans sa vie, de marcher sur ses brisées ou de lui causer des désagréments. Au contraire, il savait de science certaine que rien ne serait plus agréable aux Tatars civilisés qu'un conflit d'où résulterait sans faute un recueil de plaisanteries, bonnes ou mauvaises, de goguenardises et de ventries, de quoi défrayer dans toutes les garnisons, tous les cantonnements du Caucase. En conséquence, il revint sur sa promesse, se résolut à voyager seul, à voyager vite, et quelques heures après le départ des militaires, il prit à son tour une barque, s'arrangea de façon à maintenir une petite distance entre lui et ceux qui le précédaient, puis lorsque la nuit fut tombée, au lieu d'aller la passer avec les deux amis dans un cabanon de planches appartenant à l'État et réservé à l'usage des voyageurs, il doubla le voirelet de ses bateliers, atteignit au matin Koutaïs, prit la poste, ne fit que traverser Tiflis sans s'arrêter, et atteignit Chamacha. Chamacha n'est pas une grande ville, ce n'est plus même une ville curieuse. L'ancienne cité indigène a disparu presque entièrement pour faire place à un amas de constructions modernes, peut-être assez bien entendu, mais à coup sûr tout à fait dénué de physionomie. Les musulmans riches se sont fait bâtir des maisons russes appropriées à leurs besoins et à leurs habitudes. On aperçoit des magasins du gouvernement, des casernes, une église, ce que l'on rencontre partout. Et le maître de police, ancien officier de cavalerie, brave homme, qui élevait des oiseaux chanteurs et passait une partie notable de sa vie dans l'énorme cage où il avait logé ses pensionnaires, était, avec le gouverneur, l'homme le mieux logé du pays, parce que son habitation ressemblait le plus à celle d'un bourgeois allemand. Grégoire Ivanitch Vialge s'y rendit d'abord, frappa à la porte et fut admis. Il rentra dans le salon de l'air dégagé qui lui était propre, ne salua aucunement la sainte image placée dans un angle, au sommet du plafond. « Mon excellent ami, lui dit-il, j'ai fait un grand voyage. J'arrive de Constantinople et en dernier lieu de Poti. Je n'ai pas pris une heure de repos et je vous apporte la fortune. » « Elle est la bienvenue, répondit Paul Pietrovitch. Bienvenue, assurément. C'est une bonne dame, d'un certain âge, capricieuse, mais personne au monde, je pense, ne lui a jamais sciemment fermé sa porte. Bref, j'ai réussi dans nos projets au-delà de toute espérance. » « Racontez le tout par le menu, répliqua Paul Pietrovitch, d'un air de béatitude. En étendant sur ses genoux son mouchoir de cotonnade bleue à raies rouges et s'introduisant dans le nez une forte prise de tabac. Voilà l'histoire. Ainsi que nous nous étions convenus, dit Grégoire Ivanitch, je me suis rendu en vous quittant il y a 2 mois à Redoute-Calais où j'ai rencontré l'Arménien à qui j'avais donné rendez-vous. Il m'a exposé la situation. Lui et ses associés ont acheté à bon compte, ma foi, 6 petites filles et 4 petits garçons. Il estime que sur ces 10 enfants qui promettent beaucoup, au moins 4 seront d'une beauté exceptionnelle, et une petite fille, oh, il l'a eu vraiment pour un morceau de pain, semble devoir atteindre à une perfection inouïe. « Tu me réjouis le cœur, ma chère âme !» s'écria Paul Pietrovitch. L'Arménien m'a fait observer que, ayant parfaitement vendu l'année dernière ce qu'il avait de mieux et de près, il s'était résolu cette fois à perfectionner encore la marchandise. « C'est un homme intelligent, je l'ai toujours dit et pensé, » grommela Paul Pietrovitch. « Dans ce dessein, » poursuivit Grégoire, « il a fait l'acquisition d'une jolie petite maison de campagne où il habite avec 4 filles, ses 2 nièces, un neveu et un cousin de sa femme, en tout 10. » Vous suivez le détail, parfaitement. Et pour tout ce petit monde, il s'est procuré des passeports, des papiers, des actes parfaitement en règle. Enfin, ce qu'il faut. J'ai vu les prix sur ces livres, et là, franchement, ça n'a pas coûté cher. J'en suis presque fâché, dit le maître de police. C'est ce que j'appelle déconsidérer l'autorité. Quand ceux qui en sont revêtus se laissent aller à des concessions trop faciles. Mais j'ai peut-être des principes un peu sévères. Continuez. » L'Arménien a engagé un maître de russe, un maître de français, qui enseigne en même temps la géographie et une gouvernante suisse. Ces différents frais d'établissement ne sont pas ruineux, et le résultat de la spéculation et que notre compagnie se trouve désormais en état de fournir des épouses et des intendants de mérite à tous les Turcs élevés en Europe, et qui tiennent à se faire un intérieur convenable, ou encore aux personnes appartenant à des communions différentes, et qui savent apprécier la beauté et le talent. « Cet Arménien est assurément un homme de génie, » murmura Paul Pietrovitch, levant les yeux au ciel, et croisant les mains sur son ventre. Bien, c'est presque ce qu'a dit notre associé américain à Constantinople quand nous avons partagé nos bénéfices de l'année dernière. Mais il est hors de doute que la voie dans laquelle nous marchons aujourd'hui et l'extension illimitée de nos affaires va nous faire monter au-dessus de nos espérances. Je le pense ainsi, mon bon, mon parfait ami. Et qui plus est, car je ne songe pas qu'à ma seule propriété, je m'occupe aussi du bonheur de mes semblables, Je suis avant tout un philanthrope, moi. Regarde quel bien nous faisons. La chose est claire, repartit Grégoire Ivanovitch avec une grimace de supériorité. Nous achetons pour une centaine de roubles pièce des pauvres diables de marbre condamnés à végéter ici dans la fange, dans la faim. Nous les rendons gentils, doux, aimables, sociables. Cela devient des grandes dames et des messieurs, à tout le moins de bons bourgeois ou de braves domestiques. Je voudrais bien savoir qui peut se vanter d'être plus au monde que nous. Mais ce n'est pas pour te horrifier que je viens te voir. Voici tes dividendes. Là-dessus, Hassanov tira de la poche de sa redingote un gros portefeuille, du portefeuille une liasse de billets, et pendant une bonne demi-heure, les deux amis furent plongés dans des calculs qui causaient évidemment par leurs résultats une satisfaction vive à Paul Pietrovitch. Quand tout ce tripotage eut pris fin, le digne maître de police demanda un grand cri de l'eau-de-vie, et pendant que les verres s'emplissaient, se vidaient et s'emplissaient de nouveau, « L'ennemi de l'esprit, » dit à son camarade, « belles et plus belles étoffes ont un revers. L'année écoulée a été bonne, l'année prochaine sera meilleure. Cette année-ci, nous n'avons guère que des non-valeurs, grâce à cet imbécile de Léocadie Marron, qui a été nous acheter trois filles dont la taille a tourné. Ah, si notre excellente maîtresse de danse, Fulfelsnet, voulait nous aider, elle le pourrait, et son secours viendrait bien à point. Mon petit père, il ne faut pas chercher à me tromper. T'as envie de vendre les splendeurs de la beauté elle-même. Mais t'as tort, elle n'y consentirait pas, ni moi non plus. Quelle idée bizarre vas-tu chercher là, Paul Pietrovitch? Les splendeurs de la beauté auraient pu se placer aussi bien si elle avait vécu, et nous aussi, il y a une cinquantaine d'années, où le goût était différent de ce que nous le croyons. Cette femme-là doit peser. Oh, qu'est-ce qu'elle ne pèse pas? Désormais, on ne veut plus que des femmes minces, et on appelle cela avoir l'air distingué. Je suis sûr que les splendeurs de la beauté ne rapporterait pas 200 ducats. Elle en voudrait garder au moins la moitié, sinon plus. Ce n'est pas ce que j'appellerais une opération. Non, ne me prête pas d'idées ridicules. Je n'ai pas songé une minute aux splendeurs de la beauté. Ah, me dit Jian, je ne dis pas. Elle n'est pas jolie, mais elle parle français et russe. Il faudrait lui faire une remise assez forte. Mais comme nous n'avons pas eu avec elle de frais d'éducation, de nourriture ni d'entretien, on s'en tirerait. J'ai justement rencontré à Poti un marchand de loupes d'arbres français qui m'a assuré connaître à Trébizonde d'un ancien caïmacaïou retiré, occupé à rechercher une femme bien élevée. Il la veut musulmane afin de s'épargner les ennuis de la conversion. Homme Jehan, ce me semble, conviendrait parfaitement à cette occasion-ci. Homme Jehan sera l'affaire de ton Kaïmakam. S'il est l'affaire d'Homme Jehan, répondit le maître de police sentencieusement. Parle-en aux splendeurs de la beauté. Tu entendras son avis. Sur ces derniers mots, les associés se séparèrent. Mais ici, une remarque doit trouver sa place. On aurait tort de croire dans l'ennemi de l'esprit quelques disciples des traîtres de mélodrame ou simplement un homme tant soit peu méchant. Il n'était ni l'un ni l'autre. En tant que moralité, il avait les idées de ses coreligionnaires. Ce n'était pas sa faute puisqu'il avait été élevé par eux, avec eux et comme eux. Mais on pourrait presque dire qu'il y allait innocemment, puisqu'il ne voyait aucun mal dans ce qu'il supposait être la raison et la vérité. C'était un esprit tortu et dévoyé, mais non pas un drôle à proprement parler. Et quant à son commerce, Il le conduisait avec une tranquillité de conscience, peut-être aussi justifiée que celle dont messieurs les entrepreneurs d'entreprises matrimoniales à Paris sont assurément pourvus après 40 ans de succès. Les lois européennes défendent sévèrement la traite des esclaves. Cela est exact. À ce titre, le maître de police russe, le marchand arménien, le spéculateur américain et le commis voyageur français, tous chrétiens, étaient des coquins purs et simples. Mais l'ennemi de l'esprit et sa clientèle asiatique avaient de quoi se tenir l'âme en repos, dans un pays où les mariages ne se contractent jamais, en suivant les conditions même les plus régulières, que par ces ventes au moins simulées de la femme et où l'esclave homme prend rang dans la famille immédiatement après les enfants et avant les domestiques. Ceci soit dit non pas pour élever Grégoire Ivanitch sur un pavois, mais uniquement pour le présenter sous son vrai jour. Et voilà ce qu'on en peut affirmer avec justice, un bon vivant par démonstration, dogmatiquement. C'est ce qu'il était. Débarrassé de toute espèce de scrupule quant à la poursuite de ses plaisirs et de ceux des autres, nativement obligeant et du reste ne voulant du mal à qui que ce soit au monde, excepté bien entendu à l'esprit à cause de tous nos malheurs d'ici-bas, il tenait à ce point. Quand il eut quitté le maître de police, il se rendit chez les splendeurs de la beauté et trouva cette dame dans un état de santé aussi satisfaisant qu'il l'avait laissé lors de leur dernière entrevue. Elle se tenait dans une chambre qui, pour être de construction à peu près européenne, n'en était pas moins meublée et accommodée à la tatare. À la vérité, on voyait pendre sur les murailles, blanchies à la chaux, des cadres dorés contenant des gravures coloriées, représentant l'histoire de Dora et d'Alonso, plus un portrait lithographié du maréchal Paskevitch, orné de moustaches épouvantables, et par une idée vraiment très ingénieuse de l'artiste, regardant d'un œil du côté d'Erivan, et suivant de l'autre la direction de Varsovie. Mais, à part ses emprunts à un luxe exotique, le tapis jeté sur le sol était perçant, et le long des murs s'étendaient des petits matelas étroits, formant divans et recouverts d'étoffes du pays. Les splendeurs de la beauté, avec un visage de pleine lune, des yeux comme deux diamants noirs un peu éteints, une bouche de Shiva, une opulence de forme dans toute sa raison, qui eut ravi en extase la véritable Osiman Lee, était affaissée sur elle-même, au milieu d'un amas de coussins, et fumait méthodiquement son tchibouk, qu'elle soutenait de la main droite, tandis que de la gauche, paresseusement posée sur le matelas, elle tournait les grains de son tesliv ou chapelet musulman. Bref, elle suivait consciencieusement le cours de ses occupations journalières, qui consistaient à ne rien faire. Il serait hardi de prétendre qu'elle ne pensait à rien. Cet état paradisiaque existe pour les hommes dans beaucoup de pays, mais il est à douter que nulle part il soit accessible aux femmes. La maîtresse danseuse songeait donc probablement à quelque chose. En apercevant Grégoire Ivanitch, elle lui dit avec une sorte de vivacité « Salam alaikum, vous êtes le bienvenu !»« Alaikum salam, madame, reprit l'ennemi de l'esprit. Mes yeux deviennent brillants du bonheur de vous voir. Bismillah, asseyez-vous, je vous prie. » Elle frappa des mains. Une servante fort sale apparut. « Apporte ici une bouteille de raki et deux verres. » Grégoire ayant pris place, l'eau de vie se trouva entre lui et la dame de séance. Deux ou trois accolades furent données à la bouteille, puis les interlocuteurs, se trouvant dans un état confortable, ils commencèrent la conversation. Madame, dit l'ennemi de l'esprit, je viens de proposer au respectable Paul Pietrovitch une très belle occasion de faire le bonheur d'Omjehan. Mais si vous faites son bonheur, répondit les splendeurs de la beauté, elle en sera peut-être reconnaissante. Mais encore, faudrait-il savoir comment vous l'entendez. Grégoire Ivanitch agita la main droite en l'air et secoua la tête d'un air de désintéressement et de magnanimité. « Bah, dit-il, je le sais. Si j'étais pour quelque chose dans l'affaire, elle ne se montrerait pas plus touchée d'aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a 3 mois. Elle ne veut pas entendre parler de son serviteur. C'est convenu, et son serviteur n'est pas du tout disposé à la laisser venir de mal à l'estomac pour qu'on la dédaigne. Ces sottises-là sont du ressort des serviteurs de l'esprit. Non, 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 laissez-moi de côté. Je viens bonnement proposer à Omar Djeman de la marier à un Kaïmakam. Pour tout vous dire, j'avais emporté l'autre jour sa photographie, telle qu'il y a 8 ans la femme du général l'avait fait faire. Je l'ai montrée au digne dont je vous parle, et vraiment il a pris feu. C'est un digne homme, je le répète. Il n'a que 70 ans. On le trouve musulman sévère. Il ne boit ni vin ni eau-de-vie. Cela plaira à Omjehan qui déteste si fort ce qui est bon. Il a une horreur encore plus prononcée pour les Européens. Ce qui lui conviendra également à elle, dont le sentiment n'est pas bien caché là-dessus. Enfin, il est riche. Je lui connais des terres dans 3 villages des environs de Batoum, et il a par-dessus le marché un joli revenu provenant des mines d'argent de Gümüş Kemer. Voyez ce que vous voulez faire. J'aime tendrement Omjehan, répliqua les splendeurs de la beauté. C'est ma fille adoptive. Mon cœur saigne déjà en entendant vos paroles. Que sera-ce lorsqu'il faudra me séparer de cet enfant? Mais je vais mourir de 1000 morts, on m'enterrera. On m'enterre. Non, cela mérite considération. Combien me donnera-t-on pour consentir à de pareils sacrifices? Grégoire Ivanitch caressa le menton. Oui, c'est en effet une affaire de conséquence. Omjehan recevra 1/3. De ce que donne le Kaïmakam, j'aurai le 2/3 comme ayant été le promoteur de cette heureuse union, et vous partagerez le 3/3 avec notre bon et cher ami Yo-maître de police. L'acheteur offre 2 000 roubles d'argent.
2 000 roubles d'argent ?
Répondit la maîtresse chanteuse d'un air consterné. « Y pensez-vous? Comment avez-vous pu écouter une pareille proposition sans éclater de rire? Une fille qui est une perle de vertu et d'innocence, qui n'a jamais dansé que devant les personnes les plus respectables, comme des généraux et des colonels, tout au plus, ou une fois ou deux, devant des majors. Une fille qui parle russe et le français, comme ceux qui les ont inventés, qui peut écrire et lire, et qui sait la géographie. Une fille qui... »
Grégoire Ivanitch lui mit la main sur la bouche avec une douce familiarité et continua lui-même la litanie. « Oui, une fille qui est charmante, mais très maigre, avec des yeux assez jolis, mais bleus, et polluante. » À l'ordinaire, une fille qui sait une joue de belles choses, je l'avoue, mais qui manie également le couteau d'une manière fort agréable, comme j'en ai reçu moi-même la preuve dans l'épaule, et qui par malheur n'est pas toujours d'une humeur accorte, une fille, enfin, qui est un diable incarné. Pour ma part, je considère que la payer 2 000 roubles, c'est faire son propre malheur aussi cher qu'il est possible.
Mais 1/6 de la somme est rien de plus pour...
Ah, vous voulez dire 1/3 ?
Comment, mais je partagerai avec Paul Pietrovitch.
Mais c'est-à-dire que vous lui prendrez tout, en outre de ce que vous lui enlevez déjà.
Croyez-vous que lorsqu'il a bu, il ne pleure pas dans mon sein pour la misère et vous le redonisez ? Grégoire Ivanovitch, me dit-il, cette femme-là est si belle, si aimable, si souriante, qu'elle me mettra au tombeau dans le même costume que j'avais en venant au monde. Et alors il verse des flots de larmes. Il faut que je lui essuie le visage et que le couche moi-même. Ne me dites donc pas de folie. Vous aurez un tiers pour vous, et c'est à prendre ou à laisser. Eh bien, Grégoire Ivanitch, vous êtes pour moi un véritable père, je ne me lasse pas de le répéter. Je m'écris souvent quand je suis toute seule. Splendeur de la beauté, souviens-toi que Grégoire Ivanitch est ton père. Dites seulement à Paul Pietrovitch de me donner une montre en or avec des fleurs en émail dessus, pareille à celle de la gouvernante de la province, et alors je parlerai à Om Jehan.
Oh, je ne me mêle pas de ces affaires-là. Vous tirerez de Paul Pietrovitch ce que vous voudrez, et vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. D'ailleurs, le temps presse. Voulez-vous ou ne voulez-vous pas commencer dès aujourd'hui notre affaire ?
Et les splendeurs de la beauté balança sa tête de droite à gauche d'un air subjugué.
On ne peut rien vous refuser, Grégoire Ivanitch. Voilà, bia, tala, fof. Je vais me mettre à l'œuvre à l'instant. Mais donnez-moi seulement, pour me souvenir de vos bontés, cette petite bague turquoise que vous portez là à la main gauche. Les turquoises sont un gage de bonheur.
L'ennemi de l'esprit ôta galamment la bague de son doigt et la présenta à la dame, qui la posa d'abord sur son front, puis tira de son sein une bourse de cachemire où elle enferma sa nouvelle conquête parmi d'autres plus anciennes. Cela fait, Grégoire Ivanitch prit congé, et tout aussitôt, les splendeurs de la beauté, faisant un effort sensible, souleva sa masse opulente, la dressa sur ses pieds, et avec un balancement de hanches, qui journellement ravissait en extase d'innombrables admirateurs, elle sortit de la chambre, son djibouk d'une main et son chapelet de l'autre. Elle passa sans s'y arrêter devant chaque porte des cellules habitées par plusieurs de ses élèves, et elle ouvrit enfin celle d'Om Jehan. Elle entra. L'appartement était petit, étroit. Il n'y avait dans un angle qu'un sofa très court. Pas de gravures européennes. Aucune espèce de luxe nulle part. Pas de djibouk. Om Jehan ne fumait pas. Aucun verre, aucune bouteille. Elle ne buvait pas. Non, rien, pas même un pot de rouge ni de blanc de ses ruses. Elle ne se fardait pas, ce qui était inouï chez une personne de la ville, et les personnes qui lui voulaient le plus de bien citaient cette bizarrerie comme un des traits les plus regrettables de son caractère. Lorsque sa maîtresse entra, la jeune danseuse était assise, la joue appuyée sur sa main gauche, le coude sur un coussin. Elle regardait droit devant elle, livrée à une abnégation absolue de sa pensée et de ses sens. Elle était vêtue d'une robe étroite de soie cramoisie à raies jaunes parsemée de fleurs bleues. Un mouchoir de gaze rouge brodé d'or était entortillé dans ses cheveux noirs. Elle portait au cou un collier d'or émaillé et aux oreilles ainsi qu'aux bras des ornements de même matière. Grégoire Ivanitch avait raison. Om Jehan n'était pas ce qui s'appelle joli. Cependant, il en avait été touché, préoccupé, et cela s'expliquait. Une séduction puissante s'exhalait de cette jeune fille.
À vouloir en détailler les causes, on ne les retrouvait pas. Cependant, on ne cessait pas d'en sentir l'action. C'était une de ces créatures qui entraînent, qui enivrent, qui ensorcellent, et qui ne vous disent ni pourquoi ni comment. En vérité, un critique froid n'eût trouvé qu'un seul adjectif à lui appliquer. Il eût dit d'elle « Elle est étrange ». Mais aucun critique n'eût pu rester froid en sa présence. « Mon âme, » dit les splendeurs de la beauté en s'asseyant à côté de sa pensionnaire, « écoutez-moi bien, il s'agit d'un grand mystère. » Là-dessus, quand elle vit les yeux d'Om Jehan attachés sur les siens, elle lui raconta d'un bout à l'autre la conversation qu'elle venait d'avoir avec Grégoire Ivanitch. Aux nombreuses précautions oratoires qu'elle employa, aux phrases séduisantes intercalées dans son récit, à l'accent mielleux et caressant donné à toutes ses paroles, à ses réticences, à ses nombreux serments, il était clair que la maîtresse danseuse ne s'attendait pas à convertir aisément la jeune lesbienne. Aussi fut-elle agréablement surprise quand, après un moment de réflexion assez court, celle-ci lui fit une réponse encourageante et qu'elle n'avait pas prévue. « Mais comment, dit-elle, serais-je sûre que ce Grégoire Ivanitch et les autres ne me tendent pas un piège ?»« Tu serais donc disposée, fleur de mon fil, à accepter le Caïmacan pour mari ?» Oui, tout de suite, mais je veux pas être trompée. Et elle dit ces mots rudement. Ses yeux, qui déjà n'étaient pas naturellement à fleur de tête, mais un peu tragiquement enfoncés sous un front bombé, semblèrent se creuser davantage, et toute l'expression de son visage fut si parlante que les splendeurs de la beauté répondit avec conviction. Mais comment veux-tu que l'on s'y joue ? On aurait, je crois, fort à faire. Om Jehan ne répondit rien. Elle attacha son regard sur le plancher et tomba dans la rêverie. Sa maîtresse, saisie d'une docilité si merveilleuse, lui passa le bras autour du cou et allait l'embrasser quand la petite servante sale entra. « Madame, dit-elle, le seigneur maître de police vous envoie dire qu'il faut venir ce soir chez le gouverneur avec Djemile et Teljmitch pour danser. Est-ce qu'il y a une fête ? Il y a des hôtes étrangers, des officiers ? Des officiers, c'est son domestique qui me l'a dit. Mais il y aura aussi des musulmans à Aga Khan et... « James Adimbe. Sais-tu si Grégoire Ivanitch y sera ? Je sais pas, mais le seigneur maître de police dit qu'il faudra mettre vos plus beaux habits. Vous aurez de grands cadeaux. » Et la petite Souillon sortit. « de grands cadeaux. C'est facile à dire, murmura les splendeurs de la beauté. On manque jamais de m'en promettre, autant chaque fois, si j'y croyais, je mourrais de faim. Enfin, on ira, c'est clair. Comment s'en empêcher ? Pour toi, mes yeux, puisque te voilà comme marié à un Caïmacam, t'as pas besoin d'amuser ces chiens, et tu peux rester ici, si cela t'arrange. Mais cela ne m'arrange pas du tout, non, j'irai au contraire avec vous et les autres chez le gouverneur. Voyez, je viens de faire 3 fois de suite l'istikharé pendant que vous parliez à Durrazeban. La perle du temps, c'était le nom authentique de la jeune Marie Thorne. Et 3 fois j'ai eu le même nombre de grains. Elle montrait son chapelet qu'elle serrait des deux mains. Elle balbutia entre ses dents un bout de prière et se leva. Les splendeurs de la beauté ne trouva absolument rien à répliquer à son argument aussi fort que celui d'une décision de l'istikharé et comme elle venait de se donner des fatigues inusitées, elle rentra dans sa chambre pour dormir jusqu'à l'heure de sa toilette, laissant Om Jehan réfléchir s'il lui plairait à la nouvelle aventure, où la vie déjà si agitée de cette dernière semblait se trouver entraînée. Il était parfaitement exact que le gouverneur Samarcande avait l'intention de se mettre en frais. Il donnait à dîner à deux officiers voyageurs en route pour Bakou, le lieutenant Hassanov et la cornette Moreno, et à cette occasion, il avait invité les officiers du bataillon d'infanterie en garnison dans la ville et son ami de cœur, le maître de police.